La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu sont avec chacune et chacun d'entre nous. Éternel est son amour et sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez donc dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je vous propose de poursuivre dans la louange avec le chant du psaume 47, donc dans le psautier français, les trois strophes de ce psaume « Frappez dans vos mains, vous tous les humains ». Vous pouvez prendre place. Et après avoir accueilli ainsi la présence de Dieu, je voudrais vous souhaiter chaleureusement bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être ici. C'est une joie et une force d'être ensemble pour nous ouvrir à ce que Dieu désire nous offrir et pour l'honorer. Grand bienvenue à la rabbin Delphine Horwiller de venir qui a accepté de venir nous donner la prédication. Alors c'est avec grand intérêt, car j'ai toujours été épaté parce que quand je vous ai lu ou entendu. Et puis c'est aussi une joie, car le geste de miséricorde que vous faites en venant est créateur, et je pense que notre monde a vraiment besoin de paroles fortes, de gestes de paix, et puis de croisements entre nous, de paroles bienveillantes. Alors je sais que vous êtes très sollicité par votre exigeante fonction rabbinique dans la synagogue libérale du 15e, mais aussi dans les médias où vous faites un très beau travail de foi, de justice, d'intelligence et de paix. Alors voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'Évangile. « Écoute le Seigneur ton Dieu, c'est le seul Seigneur, nous dit-il. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute « Aime-le avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu dans la prière pour reconnaître que nous avons comme une marche de progression à faire et que Dieu peut vraiment être un secours. Alors je vous propose de suivre du cœur ce psaume de David. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car oui, près de l'Éternel est l'amour. Près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Mais voici ce que nous dit Dieu personnellement au cœur de chacun d'entre nous, selon ces paroles du prophète Osée. Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude, je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera amour, et je ne saurai plus m'en donner d'autre. Je m'attacherai à toi pour toujours. Par la justice et par le droit, par la tendresse et par l'amour. Tu seras attaché à moi pour toujours, et enfin, tu connaîtras mon nom. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Et en réponse à cette grâce de Dieu, nous nous tournons vers lui par la foi. Alors je vous propose de vous unir à cette simple déclaration de croyance. Je crois en un seul Dieu, notre Père, notre Mère, qui a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. L'Esprit nous fait, homme comme femme, prêtre, prophète et roi. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place.
Je vous propose de lire le chapitre 3 du livre de l'Exode, l'épisode du buisson ardent. Moshé faisait paître le troupeau de Yétro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moshe, Moshe, Moïse, Moïse !» Il répondit, « Ineni, me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérézéens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» et pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Nous sommes invités maintenant à chanter les trois premières strophes du psaume 24, « La terre au Seigneur appartient ». Chers amis, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement pour cette invitation à venir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je suis touchée et honorée de pouvoir partager ce moment de prière dans votre magnifique oratoire. J'aimerais tout d'abord débuter par une confession. Je sais que ce n'est pas quelque chose peut-être de très protestant, je vous assure que ce n'est pas non plus quelque chose de très juif, mais permettez-moi tout de même de vous raconter cette petite anecdote. Je mène l'office chaque semaine ou presque dans ma synagogue du 15e arrondissement, et ces dernières semaines, j'ai fait quelque chose de très mal. Alors j'attends impatiemment le prochain Yom Kippour pour pouvoir expier cette faute. J'ai trouvé sur Internet un site très amusant que certains parmi vous connaissent peut-être. Ce site vous propose de rédiger de faux messages Twitter de Donald Trump. Le principe est simple, vous tapez un message, de préférence en anglais, et ce message apparaît immédiatement comme s'il s'agissait d'un statut Twitter émanant du nouveau président des États-Unis, qui, vous le savez, raffole de ce mode de communication. Et alors, il ne reste qu'à le poster. Et j'ai donc, jeudi dernier, à la veille de l'office de Shabbat, écrit un message sur les réseaux de ma synagogue, sous la forme d'une plaisanterie, comme un message signé Donald Trump qui disait en anglais « Désolé, je ne pourrai malheureusement pas venir assister demain à l'office, ni écouter le sermon du rabbin Orwiller. » Eh bien, figurez-vous que quelques-uns parmi les lecteurs du faux tweet n'ont pas perçu qu'il s'agissait d'une plaisanterie et ont vraiment pensé que le président des États-Unis était capable d'avoir écrit quelque chose comme ça, ce qui sans doute en dit long sur peut-être ce dont on l'imagine capable. C'est comme si, venant de lui, rien ne pouvait étonner. Mais passons. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la force qu'a pris de nos jours ce mode de communication. Et le fait que de plus en plus d'individus, et surtout de plus en plus de leaders politiques, choisissent de s'exprimer ainsi, sous la forme de statuts sur les réseaux sociaux. Des statuts dont la particularité est d'affirmer une vérité, alors certains diront une post-vérité, de préférence en moins de 140 signes, sans véritablement disposer en face d'interlocuteurs ou de contradicteurs. Vous affirmez quelque chose, un énoncé, qui est voué à circuler et qui n'appelle pas vraiment au dialogue. Alors certains diront que peut-être les lieux de culte ne sont pas l'endroit pour s'interroger sur les modalités du discours politique ou sur les modes de communication choisis par certains leaders, mais personnellement, je crois que c'est l'inverse. Nous disposons dans nos textes, dans nos traditions, de références très particulières qui nous invitent à penser ce qu'est le mode de communication d'un leader et ce que nos traditions disent de l'expression du leader. Il se trouve que dans toutes les synagogues du monde, nous lisons actuellement, précisément ces semaines-ci, un récit qui est sans doute le plus emblématique en la matière, qui a précisément à voir avec ce que je viens de vous lire il y a un instant. Comme vous le savez peut-être, les synagogues suivent dans le monde entier un ordre particulier de lecture du Pentateuque, de la Torah, et chaque semaine dans le monde entier, on lit précisément le même extrait, même si bien sûr, de synagogue en synagogue, on va l'interpréter différemment. Cet extrait en hébreu s'appelle la parasha, c'est une section du texte de la Torah, et il se trouve que nous lisons en ce moment même, dans la Torah, une histoire que vous connaissez bien, peut-être l'histoire la plus célèbre de la Bible, celle dont on a fait bien des romans, bien des films et même des dessins animés de Walt Disney. Je veux parler bien sûr de l'esclavage des Hébreux en Égypte, suivi de la sortie miraculeuse de cet esclavage et la traversée du désert sous le leadership d'un homme qui va devenir le héros par excellence du reste du récit biblique. Je veux parler bien sûr de Moïse. Et vous souvenez sans doute des premiers chapitres du livre de l'Exode, dont nous avons lu un extrait il y a un instant, qui est le livre qui raconte précisément cette histoire, le livre qui débute avec l'enfance du héros. Moïse naît dans une famille hébreu en un temps où tous les premiers-nés mâles des Hébreux sont menacés de mort. Mais, nous dit le texte, sa mère le trouve très beau, elle le trouve magnifique et elle va le placer sur le Nil et ainsi le sauver. Moïse grandit alors caché au palais de Pharaon, adopté par la fille de Pharaon, mais nourri par une nourrice hébreu, jusqu'au moment où, bien plus tard, il va devoir s'enfuir, se réfugier à Madian, dans le désert, où il devient gardien d'un troupeau pour son beau-père, Yétro. Et c'est là qu'en plein désert, dans ce no man's land, dans ce lieu où il n'est personne, juste un petit berger, eh bien, il va avoir une révélation. Et c'est le célèbre épisode du buisson ardent. Moïse aperçoit un arbuste qui brûle, mais ne se consume pas. Et du cœur de ce buisson, une voix s'adresse à lui. Au chapitre 4 de l'Exode, et c'est ce moment que j'aimerais maintenant étudier avec vous ce matin, quelque chose nous est dit en cet instant sur le mode de communication du leader que s'apprête à devenir Moïse. Cet extrait, j'aimerais maintenant vous le lire en hébreu, puis vous le traduire en français. L'Éternel dit à Moïse, demande à Moïse de devenir son porte-parole, de retourner en Égypte pour parler en son nom au peuple. Et Moïse, qui est plus qu'hésitant, répond ceci. « Bi Adonai, lo ish dvarim anochi, gam mitmol, gam mishilshom, me'az dabrecha el avdecha, ki kaved pe vechaved lashon anochi. » De grâce éternelle, je ne suis pas un homme de parole, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche lourde et la langue embarrassée. Que signifie cette phrase ? Qu'est-ce qu'une bouche lourde et une langue embarrassée ? Certains commentateurs traditionnels concluent de ce verset, précisément de ce verset, que Moïse était bègue. Mais qu'est-ce qui leur permet de conclure cela ? Eh bien, c'est un jeu de mots quasi lacanien qu'ils font d'un élément du verset que je viens de lire. « Bi Adoni lo ish devarim anochi » « De grâce éternelle, je ne suis pas un homme de parole »« Gam mitmol, gam mishilshom »« Ni depuis hier, ni depuis avant-hier » Or en hébreu, « ni depuis hier, ni depuis avant-hier » se dit « gam, gam » un « ni, ni » et le verbe « bégayer » en hébreu se dit précisément « gam, gam » et c'est sur ce jeu de consonances, ce jeu de mots que s'appuie les commentateurs. Ce qui est assez incroyable, vous l'admettrez, parmi tous les hommes ou les prophètes qui auraient pu parler au nom de l'Éternel, pourquoi fallait-il quelqu'un qui bégaye ? Ça ressemble presque à une blague, n'est-ce pas ? Quel est donc le sens de cette infirmité ? Certes, Dieu en bien des occasions choisit pour l'interlocuteur privilégié des hommes qui précisément ne sont pas des modèles de force et d'intégrité physique. Un exemple, Abraham, pendant une partie de sa vie, est stérile, Isaac est dit aveugle, Jacob boite. Vous l'admettrez, les héros de la Bible n'incarnent pas exactement la force ou la perfection physique, mais au contraire, bien souvent, une sorte de vulnérabilité assumée, comme une brisure, une faille avec laquelle ils apprennent à vivre. Mais Moïse et son bégayement constituent presque un principe poussé à l'extrême. À moins qu'il s'agisse d'autre chose que d'un bégayement, d'une autre forme de problématique de langage. La Bible nous dit que Moïse a la bouche lourde et la langue embarrassée. Et ailleurs dans le texte, elle dit que Moïse est, en hébreu, « arel sfataim », ce qui signifie littéralement incirconcis des lèvres. Que peut bien signifier cette précision ? Quelle est donc cette entrave ou cette lourdeur qui touche le héros, le leader politique par excellence dans son expression ? Il y a une lecture particulière de ces expressions que la langue hébraïque permet et que j'aimerais maintenant vous suggérer, mais je suis obligée pour cela de faire un tout petit détour par la grammaire hébraïque. Alors j'espère ne pas vous perdre en chemin, en général, quand on prononce le mot « grammaire », ça déclenche une somnolence chez beaucoup d'individus. Moïse dit de lui qu'il est lourd au niveau des sfataim en hébreu. Or, le mot sfataim est le pluriel du mot safa, qui signifie la lèvre, mais qui signifie également en hébreu la langue, au sens du langage, de la langue parlée. Et sfataim est plus exactement, d'un point de vue grammatical, la forme duale du pluriel. Elle signifie le redoublement d'un point de vue grammatical. Littéralement donc, Moïse dit de lui-même, non pas qu'il est lourd des lèvres, mais qu'il est embarrassé par une double langue, par ce qu'on pourrait appeler un bilinguisme. Et c'est comme si Moïse disait à Dieu, je ne peux pas parler au nom des Hébreux parce que je suis bilingue et encombré par cela. Et dans le cas de Moïse, c'est ô combien vrai. Moïse, c'est l'enfant qui a grandi entre deux langues, entre deux mondes. C'est l'homme qui est incapable de dire vraiment quelle est sa langue maternelle. Lui qui a eu pour nourrice une hébreu et pour mère adoptive une égyptienne. Et c'est comme si cette identité-là, cet entre-deux, ce multilinguisme, était ce qui rendait difficile à ses yeux la tâche que Dieu lui confie. Et si c'était précisément cela qui motivait le choix de Dieu d'élire un tel homme pour porte-parole? Et si c'était justement cela qui faisait de lui l'homme qui doit et peut parler? Moïse est choisi pour dialoguer parce qu'il vit toujours entre deux langues. Et d'une certaine manière, il est toujours en dialogue, même quand il est en monologue avec lui-même. Il y a toujours de l'autre en lui. Et c'est pour cela qu'il peut parler au nom d'un grand autre qu'est le divin. Et pourquoi vous parlez de cela ce matin? Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec Twitter et la communication de certains de nos leaders aujourd'hui? Eh bien, il me semble qu'à sa manière, Moïse représente dans la Bible une sorte d'anti-Twitter absolu. C'est l'homme qui n'a aucune chance de faire passer son message en 140 signes, parce qu'il bégaye, et 140 signes, ça ne va jamais suffire. Mais surtout, surtout, sa langue à lui n'est pas conciliable avec celle de nos réseaux sociaux. Car le propre du statut sur ces réseaux sociaux, c'est d'être un langage non dialogué. Le statut est toujours une forme de monologue. Vous y affirmez quelque chose sans aucune régulation, sans interlocuteur véritable, sans contre-langage, sans contradicteur. Vous affirmez votre vérité, qui par définition ne sera pas contestée, puisque vous parlez tout seul. Et je crois qu'il nous faut méditer cela aujourd'hui. En un temps où les réseaux sociaux, censés connecter les gens les uns aux autres, bien souvent les isolent étrangement les uns des autres et font bien souvent de nous des êtres qui monologuent. Il est urgent, je crois, de méditer cela, de penser ce que nous attendons d'une parole inspirée, y compris d'une parole politique inspirée, qui doit tolérer et qui doit même chérir la contradiction. Une parole qui reconnaît que sans dialogue et sans reconnaissance des autres voix face à soi, mais aussi d'une autre voix en soi, toute parole énoncée n'est qu'un plan de communication qui cesse de se soucier de vérité. Dans un temps où la violence se déchaîne si souvent aussi sur les réseaux sociaux, il est important, je crois, de conserver une parole lourde de sens et d'altérité. C'est-à-dire d'être capable de prendre la parole suffisamment au sérieux pour préserver chez nous le souci du dialogue et de la vérité. Merci à vous tous.
Je vous propose de chanter ensemble dans le petit recueil Louanges et prières, le cantique 315. Les trois strophes donc de ce cantique, l'Éternel seul est ma lumière, qui est donc tiré du psaume 27. Vous pouvez prendre place, le temps de quelques annonces. Alors d'abord, oui, avec reconnaissance pour Madame la rabbin Delphine Horwiller. Alors elle a dû partir parce qu'en fait elle a des engagements effectivement assez nombreux et là elle avait donc une autre réunion juste après. Donc avec reconnaissance qu'elle ait pris de son temps pour ce message, moi que j'ai trouvé très inspirant. Et puis merci aussi à vous tous donc, d'avoir répondu à l'appel et de venir, malgré le côté peut-être un peu voilà, baroque, exceptionnel, de faire prêcher une femme rabbin donc, dans la chaire de l'oratoire. Ça montre votre ouverture d'esprit et cette bonne volonté dans cette participation à un geste de paix. Merci à Alexandre Korovitch qui donc a tenu l'orgue. Merci à l'équipe de garderie qui est en face, bien qu'on soit pendant les vacances scolaires. Et puis bienvenue au repas paroissial qui aura lieu donc en face, aux 4 rues de l'Oratoire, avec un menu italien donc concocté par Thierry et Marie-Lou. Donc un bon repas italien qui accueille ceux qui le désirent. Donc c'est vrai que la lasagne, on peut facilement faire des parts plus ou moins importantes pour qu'au moins on puisse goûter, même si nous étions hyper nombreux en face. Donc bienvenue à vous. Maintenant il y a André qui voulait faire une communication, donc je laisse le temps de s'approcher, de prendre le micro qui est sous la Bible. Et puis pendant ce temps-là, vous annoncez que cette semaine, effectivement pendant les vacances scolaires, puisqu'elles commencent maintenant, eh bien, il n'y a pas beaucoup de réunions de formation. Il reste samedi prochain à 18h, donc la prière silencieuse et le culte du dimanche matin. Donc André.
Bonjour à tous. Juste une communication pour le conseil presbytéral. Notre organiste titulaire, Jean-Dominique Pasquet, arrivant à l'âge de la retraite, a choisi de mettre fin à son ministère musical à la tribune de l'orgue de l'Oratoire du Louvre en nous adressant sa démission. Le conseil presbytéral en a pris acte. Nous le remercions tous pour les 7 années passées en tant que titulaire de l'orgue et de tout ce qu'il nous a apporté au niveau musical et spirituel lors des cultes, en mettant en avant une unité musicale entre la liturgie, les chants, les prières, les prédications, en rénovant des événements musicaux qui ont contribué au rayonnement musical de la paroisse, les heures musicales, les nombreux concerts qu'il a organisés avec des chanteurs et chanteuses de la paroisse. Je citerai bien sûr Sylvie Jugnot, Constance Lusati, Marion Hunal et Isabelle Hureau, entre autres. Pardon pour ceux que je ne cite pas. Et puis nombre de concerts qu'il a organisés avec le chœur de l'oratoire et Fabien Aubé. Enfin, bien sûr, nous lui devons la restauration de l'orgue qu'il a surveillé, contrôlé très minutieusement et qui a permis à notre orgue de retrouver la splendeur d'antan. Nous lui adressons collectivement nos fraternelles pensées et vous pourrez, à titre individuel, lui témoigner votre amitié par courrier ou par mail. Dès maintenant, la commission musique du Conseil presbytéral, qui est présidée par Daniel Joanneau, qui est dans la sur le banc des conseillers, est constituée de personnes qualifiées, va se remettre en recherche de, et c'est une première à l'oratoire, nouveaux organistes, et pas un seul, afin de constituer une équipe plus importante qu'actuellement pour être titulaire de l'orgue de l'oratoire. Dès que la sélection de candidats, jugés suffisamment sérieux et aptes à occuper cette tribune, sera achevée, ils seront invités à venir à tour de rôle accompagner nos chants lors d'un culte. Et seconde nouveauté, à l'issue de ces cultes, pour ceux et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pourrez, selon une procédure qui reste encore à préciser, nous donner votre opinion par mail. Vous serez consulté et vous pourrez nous dire ce que vous pensez de ces organistes, ce qui aidera, je pense, grandement la commission à statuer définitivement sur les candidats. En attendant, et je pense que vous serez d'accord avec le Conseil presbytéral, nous tenons à remercier tout particulièrement et très sincèrement Aurélien Peter et Alexandre Korovitch qui aujourd'hui accompagnent nos chants, parce que depuis Noël, ils se sont organisés pour que nos cultes se déroulent au mieux. Ils accompagneront nos cultes pendant tout le premier semestre de 2017 en attendant que cette nouvelle équipe soit constituée. Bien entendu, avec Fabien et Aurélien et Alexandre, garderont toute leur place dans le nouveau dispositif qui sera mis en place. Je reviendrai vers vous dès que nous aurons de plus amples informations. Merci de votre bienveillante écoute et bon dimanche à tous.
Merci beaucoup, André. Et puis bon, vous voyez qu'il y a des bâches qui ont été installées cette semaine. Donc effectivement, les travaux de restauration des deux chapelles donc, qui sont face à la chaire vont pouvoir commencer, sous la maîtrise d'œuvre, bien sûr, de la ville de Paris, qui est propriétaire de l'édifice, même si elle ne les finance pas, effectivement. C'est financé donc, en particulier par les manifestations donc qui ont lieu pendant les semaines de la mode ici, et ça a permis de payer l'orgue et ça permet aussi de restaurer ces chapelles. Donc on a commencé par une chapelle et puis ensuite la deuxième, et puis au cours du mois de début mars, je pense, il y a aussi la sono qui va être améliorée grandement, nous espérons, pour effectivement que notre culte se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, à propos de quelques sous nécessaires pour que l'oratoire vive, eh bien, c'est le moment de l'offrande, le moment tant attendu, qui permet effectivement de donner une part de nos moyens matériels pour que l'Église puisse vivre, puisse témoigner, puisse accompagner les familles sans condition de ressources. Donc merci pour votre générosité. En pensant particulièrement donc à toutes les personnes qui souffrent et que Dieu nous confie en particulier, je vous invite à vous unir dans la prière en suivant du cœur ce psaume, puis dans un temps de silence, avant de prier ensemble le Notre Père. Ô Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Que les enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là fleurira la justice et il y aura une grande paix jusqu'à la fin des siècles. Par eux, Dieu délivrera le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours. Ils auront souci du faible et du pauvre dont ils sauvent la vie. Ils les rachèteront à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un si grand prix aux yeux de Dieu. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre, que le nom de ton Messie, ô Éternel, dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, et en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de ta bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Oui, béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction donnée de la part de Dieu à nous, à chacun de nous, chacune de nous en particulier, pour que nous bénissions ce que Dieu nous confie en particulier. Que l'Éternel te bénisse, toi, et qu'il te garde, qu'il t'accompagne. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, gloire à toi, ô Dieu de vie.